première partie, chapitre 11. Le temps était redevenu froid. « Sortir, pourquoi ? Pour prendre la crève ?» disait Françoise, qui aimait mieux rester à la maison pendant la semaine que sa fille, le frère et la bouchère étaient allés passer à Combray. D'ailleurs, dernière sectatrice en qui survécut obscurément la doctrine de ma tante Léonie, sachant la physique, Françoise ajoutait en parlant de ce temps hors de saison « C'est le restant de la colère de Dieu !» Mais je ne répondais à ses plaintes que par un sourire plein de langueur, d'autant plus indifférent à ses prédictions que, de toute manière, il ferait beau pour moi. Déjà, je voyais briller le soleil du matin sur la colline de Fiesole. Je me chauffais à ses rayons. Leur force m'obligeait à ouvrir et à fermer à demi les paupières, en souriant. Et, comme des veilleuses d'albâtre, elles se remplissaient d'une lueur rose. Ce n'étaient pas seulement les cloches qui revenaient d'Italie. L'Italie était venue avec elles. Mes mains fidèles ne manqueraient pas de fleurs pour honorer l'anniversaire du voyage que j'avais dû faire jadis. Car depuis qu'à Paris le temps était redevenu froid, comme une autre année au moment de nos préparatifs de départ à la fin du carême, dans l'air liquide et glacial qui les baignait, les marronniers, les platanes, les boulevards, l'arbre de la cour de notre maison, entr'ouvraient déjà leurs feuilles, comme dans une coupe d'eau pure, les narcisses, les jonquilles, les anémones du Ponte Vecchio. Mon père nous avait raconté qu'il savait maintenant, par A.J., où allait M. de Noirpoix quand il le rencontrait dans la maison. « C'est chez Mme de Villeparisis. Il la connaît beaucoup, je n'en savais rien. Il paraît que c'est une personne délicieuse, une femme supérieure. Tu devrais aller la voir, » me dit-il. Du reste, j'ai été très étonné. Il m'a parlé de M. de Guermantes comme d'un homme tout à fait distingué. Je l'avais toujours pris pour une brute. Il paraît qu'il sait infiniment de choses, qu'il a un goût parfait. Il est seulement très fier de son nom et de ses alliances. Mais du reste, au dire de Noirpoix, sa situation est énorme, non seulement ici, mais partout en Europe. Il paraît que l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie, le traite tout à fait en ami. Le père Noirpoix m'a dit que Madame de Villeparisis t'aimait beaucoup et que tu ferais dans son salon la connaissance de gens intéressants. Il m'a fait un grand éloge de toi. Tu le retrouveras chez elle et il pourrait être pour toi d'un bon conseil, même si tu dois écrire. Car je vois que tu ne feras pas autre chose. On peut trouver cela une belle carrière. Moi, ce n'est pas ce que j'aurais préféré pour toi, mais tu seras bientôt un homme. Nous ne serons pas toujours auprès de toi, et il ne faut pas que nous t'empêchions de suivre ta vocation. » Si au moins j'avais pu commencer à écrire! Mais, quelles que fussent les conditions dans lesquelles j'abordasse ce sujet, de même, hélas, que celui de ne plus prendre d'alcool, de me coucher de bonne heure, de dormir, de me bien porter. Que ce fût avec emportement, avec méthode, avec plaisir, en me privant d'une promenade, en la journant et en la réservant comme récompense, en profitant d'une heure de bonne santé, en utilisant l'inaction forcée d'un jour de maladie, ce qui finissait toujours par sortir de mes efforts. C'était une page blanche, vierge de toute écriture, inéluctable, comme cette carte forcée que dans certains tours on finit fatalement par tirer, de quelque façon qu'on eût préalablement brouillé le jeu. Je n'étais que l'instrument d'habitude de ne pas travailler, de ne pas me coucher, de ne pas dormir, qui devait se réaliser coûte que coûte. Si je ne leur résistais pas, si je me contentais du prétexte qu'elles tiraient de la première circonstance venue que leur offrait ce jour-là pour les laisser agir à leur guise. Je m'en tirais sans trop de dommages. Je reposais quelques heures tout de même, à la fin de la nuit, Je lisais un peu, je ne faisais pas trop d'excès. Mais si je voulais les contrarier, si je prétendais entrer tôt dans mon lit, ne boire que de l'eau, travailler, elles s'irritaient, elles avaient recours aux grands moyens, elles me rendaient tout à fait malade. J'étais obligée de doubler la dose d'alcool, je ne me mettais pas au lit de 2 jours, je ne pouvais même plus lire, et je me promettais une autre fois d'être plus raisonnable, c'est-à-dire moins sage, comme une victime qui se laisse voler de peur, si elle résiste, d'être assassinée. Mon père, dans l'intervalle, avait rencontré une fois ou deux monsieur de Guermantes. Et maintenant que monsieur de Norpois lui avait dit que le duc était un homme remarquable, il faisait plus attention à ses paroles. Justement, ils parlèrent dans la cour de madame de Villeparisis. Il m'a dit que c'était sa tante. Il prononce Villeparisis. Il m'a dit qu'elle était extraordinairement intelligente. Il a même ajouté qu'elle tenait un bureau d'esprit, ajouta mon père, impressionné par le vague de cette expression qu'il avait bien lue une ou deux fois dans des mémoires, mais à laquelle il n'attachait pas un sens précis. Ma mère avait tant de respect pour lui que, le voyant ne pas trouver indifférent que madame de Villeparisis eût un bureau d'esprit, elle jugea que ce fait était de quelque conséquence. Bien que par ma grand-mère, elle sût de tout temps ce que valait exactement la marquise, elle s'en fit immédiatement une idée plus avantageuse. Ma grand-mère, qui était un peu souffrante, ne fut d'abord pas favorable à la visite, puis s'en désintéressa. Depuis que nous habitions notre nouvel appartement, madame de Villeparisis lui avait demandé plusieurs fois d'aller la voir, et toujours, ma grand-mère avait répondu qu'elle ne sortait pas en ce moment. Dans une de ses lettres, que, par une habitude nouvelle et que nous ne comprenions pas, elle ne cachetait plus jamais elle-même et laissait à Françoise le soin de fermer. Quant à moi, sans bien me représenter ce « bureau d'esprit », je n'aurais pas été très étonnée de trouver la vieille dame de Balbec installée devant un bureau, ce qui, du reste, arriva. Mon père aurait bien voulu, par surcroît, savoir si l'appui de l'ambassadeur lui vaudrait beaucoup de voix à l'Institut, où il comptait se présenter comme membre libre. À vrai dire, tout en n'osant pas douter de l'appui de M. de Norpois, il n'avait pourtant pas de certitude. Il avait cru avoir affaire à de mauvaises langues quand on lui avait dit au ministère que M. de Norpois, désirant être seul à y représenter l'Institut, ferait tous les obstacles possibles à une candidature qui, d'ailleurs, le gênerait particulièrement en ce moment où il en soutenait une autre. Pourtant, quand M. le roi Beaulieu lui avait conseillé de se présenter et avait supputé ses chances, avait-il été impressionné de voir que, parmi les collègues sur qui il pouvait compter en cette circonstance, l'éminent économiste n'avait pas cité M. de Norpois. Mon père n'osait poser directement la question à l'ancien ambassadeur, mais espérait que je reviendrais de chez madame de Villeparisis avec son élection faite. Cette visite était imminente. La propagande de M. de Norpois, capable en effet d'assurer à mon père les 2/3 de l'Académie, lui paraissait d'ailleurs d'autant plus probable que l'obligeance de l'ambassadeur était proverbiale, les gens qu'il aimait le moins reconnaissant que personne n'aimait autant que lui à rendre service. Et d'autre part, au ministère, sa protection s'étendait sur mon père d'une façon beaucoup plus marquée que sur tout autre fonctionnaire. Mon père fit une rencontre, mais qui, celle-là, lui causa un étonnement, puis une indignation extrême. Il passa dans la rue près de madame Sazerat, dont la pauvreté relative réduisait la vie à Paris à de rares séjours chez une amie. Personne autant que madame Sazerat n'ennuyait mon père, au point que maman était obligée, une fois par an, de lui dire d'une voix douce et suppliante « « Mon ami, il faudrait bien que j'invite une fois Madame Sazerat. Elle ne restera pas tard. » « Et même, écoute, mon ami, je vais te demander un grand sacrifice. Va faire une petite visite à Madame Sazerat. Tu sais que je n'aime pas t'ennuyer, mais ce serait si gentil de ta part. » Mon père riait, se fâchait un peu et allait faire cette visite. Malgré donc que Madame Sazerat ne le divertit pas, mon père, la rencontrant, alla vers elle en se découvrant. Mais, à sa profonde surprise, Madame Sazerat se contenta d'un salut glacé, forcé par la politesse envers quelqu'un qui est coupable d'une mauvaise action ou est condamné à vivre désormais dans un hémisphère différent. Mon père était rentré fâché, stupéfait. Le lendemain, ma mère rencontra Madame Sazerat dans un salon. Celle-ci ne lui tendit pas la main et lui sourit d'un air vague et triste comme à une personne avec qui on a joué dans son enfance, mais avec qui on a cessé, depuis lors, toute relation, parce qu'elle a mené une vie de débauche, épousé un forçat, ou, qui pisait, un homme divorcé. Or, de tout temps, mes parents accordaient et inspiraient à Madame Sazerat l'estime la plus profonde. Mais, ce que ma mère ignorait, Madame Sazerat, seule de son espèce à Combray, était dreyfusarde. Mon père, ami de M. Méline, était convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Il avait envoyé promener avec mauvaise humeur des collègues qui lui avaient demandé de signer une liste révisionniste. Il ne me reparla pas de 8 jours quand il apprit que j'avais suivi une ligne de conduite différente. Ses opinions étaient connues. On n'était pas loin de le traiter de nationaliste. Quant à ma grand-mère, que seule de la famille paraissait devoir enflammer un doute généreux, chaque fois qu'on lui parlait de l'innocence possible de Dreyfus, elle avait un hochement de tête dont nous ne comprenions pas alors le sens, et qui était semblable à celui d'une personne qu'on vient déranger dans des pensées plus sérieuses. Ma mère, partagée entre son amour pour mon père et l'espoir que je fusse intelligent, gardait une indécision qu'elle traduisait par le silence. Enfin, mon grand-père, adorant l'armée, bien que ses obligations de garde nationale eussent été le cauchemar de son âge mûr, ne voyait jamais à Combray un régiment défiler devant la grille sans se découvrir, quand passaient le colonel et le drapeau. Tout cela était assez pour que Madame Sazerat, qui connaissait à fond la vie de désintéressement et d'honneur de mon père et de mon grand-père, les considéra comme des suppôts de l'injustice. On pardonne les crimes individuels, mais non la participation à un crime collectif. Dès qu'elle le sut anti-Dreyfusard, elle mit entre elle et lui des continents et des siècles. Ce qui explique qu'à une pareille distance dans le temps et dans l'espace, son salut est paru imperceptible à mon père et qu'elle n'eût pas songé à une poignée de mains et à des paroles, lesquelles n'eussent pu franchir les mondes qui les séparaient. Saint-Loup, devant venir à Paris, m'avait promis de me mener chez Madame de Villeparisis, où j'espérais, sans le lui avoir dit, que nous rencontrerions Madame de Guermantes. Il me demanda de déjeuner au restaurant avec sa maîtresse, que nous conduirions ensuite à une répétition. Nous devions aller la chercher le matin, aux environs de Paris où elle habitait. J'avais demandé à Saint-Loup que le restaurant où nous déjeunerions, dans la vie des jeunes nobles qui dépensent de l'argent, le restaurant joue un rôle aussi important que les caisses d'étoffe dans les contes arabes, fut de préférence celui où Aimé m'avait annoncé qu'il devait entrer comme maître d'hôtel en attendant la saison de Balbec. C'était un grand charme pour moi, qui rêvais à tant de voyages et en faisais si peu, de revoir quelqu'un qui faisait partie plus que de mes souvenirs de Balbec, mais de Balbec même, qui y allait tous les ans, qui, quand la fatigue ou mes cours me forçaient à rester à Paris, n'en regardait pas moins pendant les longues fins d'après-midi de juillet, en attendant que les clients vinssent dîner, le soleil descendre et se coucher dans la mer, à travers les panneaux de verre de la grande salle à manger, derrière lesquels, à l'heure où il s'éteignait, les ailes immobiles des vaisseaux lointains et bleuâtres avaient l'air de papillons exotiques et nocturnes dans une vitrine. Magnétisé lui-même par son contact avec le puissant aimant de Balbec, ce maître d'hôtel devenait à son tour aimant pour moi. J'espérais, en causant avec lui, être déjà en communication avec Balbec, avoir réalisé sur place un peu du charme du voyage. Je quittais dès le matin la maison où je laissais Françoise gémissante parce que le valet de pied, fiancé, n'avait pu encore une fois, la veille au soir, aller voir sa promise. Françoise l'avait trouvée en pleurs. Il avait failli aller gifler le concierge, mais s'était contenu car il tenait à sa place. Avant d'arriver chez Saint-Loup, qui devait m'attendre devant sa porte, je rencontrai le Grandin, que nous avions perdu de vue depuis Combray, et qui, tout grisonnant maintenant, avait gardé son air jeune et candide. Il s'arrêta. « Ah, vous voilà !» me dit-il. « Homme chic, et en redingote encore. Voilà une livrée dont mon indépendance ne s'accommoderait pas. Il est vrai que vous devez être un mondain, faire des visites. Pour aller rêver comme je le fais devant quelques tombes à demi détruites, ma lavalière et mon veston ne sont pas déplacés. Vous savez que j'estime la jolie qualité de votre âme. C'est vous dire combien je regrette que vous alliez la renier parmi les gentils. En étant capable de rester un instant dans l'atmosphère nauséabonde, irrespirable pour moi, des salons, vous rendez contre votre avenir la condamnation, la damnation du prophète. Je vois cela d'ici. Vous fréquentez les cœurs légers, la société des châteaux. Tel est le vice de la bourgeoisie contemporaine. Ah, les aristocrates! La terreur a été bien coupable de ne pas leur couper le cou à tous. Ce sont tous de sinistres crapules, quand ce ne sont pas tout simplement de sombres idiots. Enfin, mon pauvre enfant, si cela vous amuse, pendant que vous irez à quelque five au clock, votre vieil ami sera plus heureux que vous, car seul, dans un faubourg, il regardera monter dans le ciel violet la lune rose. La vérité est que je n'appartiens guère à cette terre où je me sens si exilé. Il faut toute la force de la loi de gravitation pour m'y maintenir, et que je ne m'évade pas dans une autre sphère. Je suis d'une autre planète. Adieu. Ne prenez pas en mauvaise part la vieille franchise du paysan de la Vivonne, qui est aussi resté le paysan du Danube. Pour vous prouver que je fais cas de vous, je vais vous envoyer mon dernier roman. Mais vous n'aimerez pas cela. Ce n'est pas assez déliquescent, assez fin de siècle pour vous. C'est trop franc, trop honnête. Vous, il vous faut du Bergotte, vous l'avez avoué, du Faisandé pour les palais blasés de jouisseurs raffinés. On doit me considérer dans votre groupe comme un vieux troupier. J'ai le tort de mettre du cœur dans ce que j'écris. Cela ne se porte plus. Et puis, la vie du peuple, ce n'est pas assez distingué pour intéresser vos snobinettes. Allons. Tâchez de vous rappeler quelquefois la parole du Christ. Faites cela et vous vivrez. Adieu, ami. Ce n'est pas de trop mauvaise humeur contre le Grandin que je le quittais. Certains souvenirs sont comme des amis communs. Ils savent faire des réconciliations. Jeté au milieu des champs semés de boutons d'or où s'entassaient les ruines féodales, le petit pont de bois nous unissait, le Grandin et moi, comme les deux bords de la Vivonne. Ayant quitté Paris, où, malgré le printemps commençant, les arbres des boulevards étaient à peine pourvus de leurs premières feuilles, quand le train de ceinture nous arrêta, Saint-Loup et moi, dans le village de banlieue où habitait sa maîtresse. Ce fut un émerveillement. de voir chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs. C'était comme une des fêtes singulières, poétiques, éphémères et locales qu'on vient de très loin contempler à époque fixe, mais celle-là donnée par la nature. Les fleurs des cerisiers sont si étroitement collées aux branches, comme un blanc fourreau, que de loin, parmi les arbres qui n'étaient presque ni fleuris ni feuillus, on aurait pu croire, par ce jour de soleil encore si froid, que c'était de la neige, fondue ailleurs, qui était encore restée après les arbustes. Mais les grands poiriers enveloppaient chaque maison, chaque modeste cour, d'une blancheur plus vaste, plus unie, plus éclatante. Et comme si tous les logis, tous les enclos du village, fussent en train de faire à la même date leur première communion. Ces villages des environs de Paris gardent encore à leurs portes des parcs du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui furent les folies des intendants et des favorites. Un horticulteur avait utilisé l'un d'eux, situé en contrebas de la route, pour la culture des arbres fruitiers, ou peut-être conserver simplement le dessin d'un immense verger de ce temps-là. Cultivés en quinconce, ces poiriers, plus espacés, moins avancés que ceux que j'avais vus, formaient de grands quadrilatères, séparés par des murs bas, de fleurs blanches sur chaque côté desquelles la lumière venait se peindre différemment, si bien que toutes ces chambres sans toit et en plein air avaient l'air d'être celles du palais du soleil, tel qu'on aurait pu le retrouver dans quelques crêtes. Et elles faisaient penser aussi aux chambres d'un réservoir ou de telles parties de la mer que l'homme, pour quelque pêche ou ostréiculture, subdivise, quand on voyait des branches, selon l'exposition, la lumière, venir se jouer sur les espaliers, comme sur les eaux printanières, et faire déferler ça et là, étincelant parmi le treillage à claire-voie et rempli d'azur, des branches, l'écume blanchissante d'une fleur ensoleillée et mousseuse. C'était un village ancien, avec sa vieille mairie cuite et dorée, devant laquelle, en guise de mâts de cocagne et d'oriflamme, trois grands poiriers étaient, comme pour une fête civique et locale, galamment pavoisés de satin blanc. Jamais Robert ne me parla plus tendrement de son amie que pendant ce trajet. Seule, elle avait des racines dans le cœur. L'avenir qu'il avait dans l'armée, sa situation mondaine, sa famille, tout cela ne lui était pas indifférent, certes, mais ne comptait en rien auprès des moindres choses qui concernaient sa maîtresse. Cela seul avait pour lui du prestige, infiniment plus de prestige que les Guermantes et tous les rois de la terre. Je ne sais pas s'il se formulait à lui-même qu'elle était d'une essence supérieure à tout, mais je sais qu'il n'avait de considération, de souci, que pour ce qui la touchait. Par elle, il était capable de souffrir, d'être heureux, peut-être de tuer. Il n'y avait vraiment d'intéressant, de passionnant pour lui que ce que voulait, ce que ferait sa maîtresse, que ce qui se passait, discernable tout au plus par des expressions fugitives, dans l'espace étroit de son visage et sous son front privilégié. Si délicat pour tout le reste, il envisageait la perspective d'un brillant mariage, seulement pour pouvoir continuer à l'entretenir, à la garder. Si on s'était demandé à quel prix il l'estimait, je crois qu'on n'eût jamais pu imaginer un prix assez élevé. S'il ne l'épousait pas, c'est parce qu'un instinct pratique lui faisait sentir que, dès qu'elle n'aurait plus rien à attendre de lui, elle le quitterait, ou du moins, vivrait à sa guise, et qu'il fallait la tenir par l'attente du lendemain. Car il supposait que peut-être elle ne l'aimait pas. Sans doute, l'affection générale, appelée amour, devait le forcer, comme elle avait fait pour tous les hommes, à croire par moments qu'elle l'aimait. Mais pratiquement, il sentait que cet amour qu'elle avait pour lui n'empêchait pas qu'elle ne restât avec lui qu'à cause de son argent, et que le jour où elle n'aurait plus rien à attendre de lui, elle s'empresserait, victime des théories de ses amis de la littérature, et tout en l'aimant, pensait-il, de le quitter. « Je lui ferai aujourd'hui, si elle est gentille, me dit-il, un cadeau qui lui fera plaisir. C'est un collier qu'elle a vu chez Boucheron. C'est un peu cher pour moi en ce moment, 30 000 francs. Mais ce pauvre loup, elle n'a pas tant de plaisir dans la vie. Elle va être joliment contente. Elle m'en avait parlé, et elle m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui le lui donnerait peut-être. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais je me suis à tout hasard entendu avec Boucheron, qui est le fournisseur de ma famille, pour qu'il me le réserve. Je suis heureux de penser que tu vas la voir. Elle n'est pas extraordinaire comme figure, tu sais. Je vis bien qu'il pensait tout le contraire et ne disait cela que pour que mon admiration fût plus grande. Elle a surtout un jugement merveilleux. Devant toi, elle n'osera peut-être pas beaucoup parler, mais je me réjouis d'avance de ce qu'elle me dira ensuite de toi. Tu sais, elle dit des choses qu'on peut approfondir indéfiniment. Elle a vraiment quelque chose de pitique. Pour arriver à la maison qu'elle habitait, nous longions de petits jardins, et je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter, car ils avaient toute une floraison de cerisiers et de poiriers. Sans doute vides et inhabités hier encore, comme une propriété qu'on n'a pas louée, ils étaient subitement peuplés et embellis par ces nouvelles venues arrivées de la veille, et dont à travers les grillages on apercevait les belles robes blanches au coin des allées. « Écoute, puisque je vois que tu veux regarder tout cela, être poétique, » me dit Robert. « Attends-moi là, mon amie habite tout près, je vais aller la chercher. » En l'attendant, je fis quelques pas. Je passais devant de modestes jardins. Si je levais la tête, je voyais quelquefois des jeunes filles aux fenêtres, mais même en plein air et à la hauteur d'un petit étage, çà et là, souples et légères, dans leurs fraîches toilettes mauves, suspendues dans les feuillages, de jeunes touffes de lilas se laissaient balancer par la brise, sans s'occuper du passant qui levait les yeux jusqu'à leur entresol de verdure. Je reconnaissais en elles les pelotons violets disposés à l'entrée du parc de M. Swann, passer la petite barrière blanche dans les chauds après-midi du printemps, pour une ravissante tapisserie provinciale. Je pris un sentier qui aboutissait à une prairie. Un air froid y soufflait, vif, comme à Combray. Mais, au milieu de la terre grasse, humide et campagnarde, qui eût pu être au bord de la Vivonne, n'en avait pas moins surgi, exact au rendez-vous, comme toute la bande de ses compagnons, un grand poirier blanc, qui ajoutait en souriant et opposait au soleil, comme un rideau de lumière matérialisé et palpable, ses fleurs convulsées par la brise, mais lissées et glacées d'argent par les rayons. Tout à coup, Saint-Loup apparut, accompagné de sa maîtresse, et alors, dans cette femme qui était pour lui tout l'amour, toutes les douceurs possibles de la vie, dont la personnalité est mystérieusement enfermée dans un corps comme dans un tabernacle, était l'objet encore sur lequel travaillait sans cesse l'imagination de mon ami, qu'il sentait qu'il ne connaîtrait jamais, dont il se demandait perpétuellement ce qu'elle était en elle-même, derrière le voile des regards et de la chair. Dans cette femme, je reconnus à l'instant Rachel, quand du Seigneur, celle qui, il y a quelques années, les femmes changent si vite de situation dans ce monde-là, quand elles en changent, disait à la Maquerelle. « Alors, demain soir, si vous avez besoin de moi pour quelqu'un, vous me ferez chercher. » Et quand on était venu la chercher, en effet, et qu'elle se trouvait seule dans la chambre avec ce quelqu'un, elle savait si bien ce qu'on voulait d'elle qu'après avoir fermé à clé, par précaution de femme prudente ou par geste rituel, Elle commençait à ôter toutes ses affaires, comme on fait devant le docteur qui va vous ausculter, et ne s'arrêtant en route que si le « quelqu'un » n'aimant pas la nudité, lui disait qu'elle pouvait garder sa chemise. Comme certains praticiens qui, ayant l'oreille très fine et la crainte de faire se refroidir leur malade, se contentent d'écouter la respiration et le battement du cœur à travers un linge. À cette femme, dont toute la vie, toutes les pensées, tout le passé, tous les hommes par qui elle avait pu être possédée, m'étaient choses si indifférentes que, si elle me l'eût conté, je ne l'eusse écouté que par politesse et à peine entendu. Je sentis que l'inquiétude, le tourment, l'amour de Saint-Loup s'étaient appliqués jusqu'à faire, de ce qui était pour moi un jouet mécanique, un objet de souffrances infinies, le prix même de l'existence. Voyant ces deux éléments dissociés, parce que j'avais connu Rachel quand du Seigneur, dans une maison de passe, je comprenais que bien des femmes pour lesquelles des hommes vivent, souffrent, se tuent, peuvent être en elles-mêmes ou pour d'autres ce que Rachel était pour moi. L'idée qu'on pût avoir une curiosité douloureuse à l'égard de sa vie me stupéfiait. J'aurais pu apprendre bien des coucheries d'elle à Robert, lesquelles me semblaient la chose la plus indifférente du monde. Et combien elles l'eussent peinée, et que n'avait-il pas donné pour les connaître sans y réussir? Je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage comme était celui de cette femme, si c'est l'imagination qui l'a connue d'abord. Et inversement, en quels misérables éléments matériels et dénués de toute valeur pouvait se décomposer ce qui était le but de tant de rêveries, si, au contraire, cela avait été connu d'une manière opposée par la connaissance la plus triviale. Je comprenais que ce qui m'avait paru ne pas valoir 20 francs, quand cela m'avait été offert pour 20 francs dans la maison de passe, où c'était seulement pour moi une femme désireuse de gagner 20 francs, peut valoir plus qu'un million, que la famille, que toutes les situations enviées, si on a commencé par imaginer en elle un être inconnu, curieux à connaître, difficile à saisir, à garder. Sans doute, c'était le même mince et étroit visage que nous voyions, Robert et moi. Mais nous étions arrivés à lui par les deux routes opposées qui ne communiqueront jamais, et nous n'en verrions jamais la même face. Ce visage, avec ses regards, ses sourires, les mouvements de sa bouche, moi, je l'avais connu du dehors, comme étant celui d'une femme quelconque qui, pour 20 francs, ferait tout ce que je voudrais. Aussi, les regards, les sourires, les mouvements de bouche m'avaient paru seulement significatifs d'actes généraux, sans rien d'individuel, et sous eux, je n'aurais pas eu la curiosité de chercher une personne. Mais ce qui m'avait en quelque sorte été offert au départ, ce visage consentant, avait été pour Robert un point d'arrivée vers lequel il s'était dirigé à travers combien d'espoirs, de doutes, de soupçons, de rêves. Il donnait plus d'un million pour avoir, pour que ne fût pas offert à d'autres, ce qui m'avait été offert comme à chacun pour 20 francs. Pour quel motif cela, il ne l'avait pas eu à ce prix, peut tenir au hasard d'un instant pendant lequel celle qui semblait prête à se donner se dérobe, ayant peut-être un rendez-vous, quelques raisons qui la rendent plus difficile ce jour-là. Si elle a affaire à un sentimental, même si elle ne s'en aperçoit pas, et surtout si elle s'en aperçoit, un jeu terrible commence. Incapable de surmonter sa déception, de se passer de cette femme, il la relance, elle le fuit. Si bien qu'un sourire, qu'il n'osait plus espérer, est payé 1000 fois ce qu'eussent dû l'être les dernières faveurs. Il arrive même parfois dans ce cas, quand on a eu, par un mélange de naïveté dans le jugement et de lâcheté devant la souffrance, la folie de faire d'une fille une inaccessible idole, que ses dernières faveurs, ou même le premier baiser, on ne l'obtiendra jamais, on n'ose même plus le demander pour ne pas démentir des assurances de platonique amour. Et c'est une grande souffrance alors de quitter la vie sans avoir jamais su ce que pouvait être le baiser de la femme qu'on a le plus aimée. Les faveurs de Rachel, Saint-Loup pourtant avait réussi par chance à les avoir toutes. Certes, s'il avait su maintenant qu'elles avaient été offertes à tout le monde pour un louis, il eût sans doute terriblement souffert, mais n'eût pas moins donné 1 million pour les conserver, car tout ce qu'il eût appris n'eût pas pu le faire sortir, car cela est au-dessus des forces de l'homme et ne peut arriver que malgré lui par l'action de quelque grande loi naturelle. De la route dans laquelle il était et d'où ce visage ne pouvait lui apparaître qu'à travers les rêves qu'il avait formés. D'où ses regards, ses sourires, ce mouvement de bouche étaient pour lui la seule révélation d'une personne dont il aurait voulu connaître la vraie nature et posséder à lui seul les désirs. L'immobilité de ce mince visage, comme celle d'une feuille de papier soumise aux colossales pressions de 2 atmosphères, me semblait équilibrée par 2 infinis qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer, car elle les séparait. Et en effet, la regardant tous les deux, Robert et moi, nous ne la voyions pas du même côté du mystère. Ce n'était pas Rachel, quand du Seigneur, qui me semblait peu de chose. C'était la puissance de l'imagination humaine, illusion sur laquelle reposaient les douleurs de l'amour que je trouvais grande. Robert vit que j'avais l'air ému. Je détournai les yeux vers les poiriers et les cerisiers du jardin d'en face pour qu'il crût que c'était leur beauté qui me touchait. Et elle me touchait un peu de la même façon. Elle m'était aussi près de moi de ces choses qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux, mais qu'on sent dans son cœur. Ces arbustes que j'avais vus dans le jardin en les prenant pour des dieux étrangers, ne m'étais-je pas trompée comme Madeleine quand, dans un autre jardin, un jour dont l'anniversaire allait bientôt venir, elle vit une forme humaine et crut que c'était le jardinier? Gardien des souvenirs de l'âge d'or, garant de la promesse que la réalité n'est pas ce qu'on croit, que la splendeur de la poésie, que l'éclat merveilleux de l'innocence peuvent y resplendir et pourront être la récompense que nous nous efforcerons de mériter. Les grandes créatures blanches, merveilleusement penchées au-dessus de l'ombre propice à la sieste, à la pêche, à la lecture, n'étaient-ce pas plutôt des anges? J'échangeai quelques mots avec la maîtresse de Saint-Loup. Nous coupâmes par le village, les maisons en étaient sordides. Mais à côté des plus misérables, de celles qui avaient un air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux voyageur, arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant, se tenait debout, étendant largement sur elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs. C'était un poirier. Saint-Loup fit quelques pas en avant avec moi. J'aurais aimé que nous puissions, toi et moi, attendre ensemble. J'aurais même été plus content de déjeuner seul avec toi et que nous restions seuls jusqu'au moment d'aller chez ma tante. Mais ma pauvre gosse, ça lui fait tant de plaisir. Et elle est si gentille pour moi, tu sais. Je n'ai pu lui refuser. Du reste, elle te plaira. C'est une littéraire, une vibrante. Et puis, c'est une chose si gentille de déjeuner avec elle au restaurant. Elle est si agréable, si simple, toujours contente de tout.